When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Donc écoutez, c'était un plaisir de débuter ce cycle. Alors je précise qu'à chaque discours, il y aura un nouvel intervenant. Donc si l'intervenant de ce soir ne vous convient pas, ce n'est pas un motif pour ne pas revenir, puisque la prochaine fois, il y aura d'autres personnes. Hein, donc ne prenez pas prétexte de ça pour ne pas assister aux autres textes. On va commencer par deux textes qui ne sont pas parmi les plus connus, qui ont été prononcés en 2004 pour l'anniversaire, la commémoration du débarquement du 6 juin 1944. Deux textes qui ne sont pas parmi les plus connus. C'est vrai que lorsqu'on parle des textes de Ratzinger, on pense plutôt aux discours aux Bernardins, à Londres ou à Berlin. Mais vous allez voir que ces deux textes sont extrêmement intéressants. Sinon, évidemment, on ne les aurait pas choisis. Et notamment par la méthode employée par le cardinal Ratzinger et par les thèmes qu'il a utilisés. Alors, je vais commencer par une brève introduction. Et puis, après, je vais proposer une analyse de ces textes, évidemment en trois parties, puisque sinon, ça ne pourrait pas fonctionner. Alors, quelques mots introductifs. Ces textes sont particulièrement intéressant parce que je pense notamment au discours sur au cimetière des morts allemands. Et Ratzinger réussit la prouesse en deux pages de synthétiser toute la pensée politique de l'Église. Vous avez là un compendium au sens propre en deux pages parfaitement écrites de la pensée politique de l'Église, des rapports entre le droit et la justice, des rapports également entre l'État et la politique. C'est vraiment une grande prouesse, d'autant que le genre de discours fait dans un cimetière peut rapidement aboutir à quelques banalités sur les morts et sur la guerre. Et là, comme on va le voir, il s'élève pour des considérations beaucoup plus importantes. Et puis le deuxième discours, c'est une conférence qu'il a donnée à Caen, la même journée. Là aussi, réflexion sur la guerre, sur la paix et sur le sens de ces commémorations, mais comme vous allez le voir ou comme vous l'avez lu, si vous avez lu les textes auparavant, évidemment, ça va bien au-delà de ça. Alors, ces deux textes sont importants parce qu'ils s'inscrivent pleinement dans ce qui est convenu d'appeler la doctrine sociale de l'Église. Pour une raison qui m'échappe, quand on parle de doctrine sociale de l'Église, c'est toujours réduit à la partie économie. Généralement, quand on parle de ça, les gens pensent économie, argent, finance. Ce qui est surprenant parce qu'il suffit d'ouvrir le compendium de la doctrine sociale de l'Église et notamment de feuilleter la table des matières, ce qui est un geste intellectuel, somme toute, assez modéré, pour se rendre compte qu'il y a 12 chapitres dans le compendium et que sur les 12 chapitres, il y en a un, à proprement parler, qui est consacré au sujet économique. Il y en a deux qui sont consacrés aux sujets, je dirais, internationaux, un qui traite des relations internationales et un autre qui traite des sujets de la paix. Donc la place dévolue aux sujets internationaux est deux fois plus importante que la place dévolue aux questions économiques stricto sensu. Donc quand on parle de la paix des nations, quand on parle des rapports entre la guerre et l'État, quand on parle de la question du droit et de la justice, on est évidemment pleinement dans ces questions de doctrine sociale de l'Église. Et comme à chaque fois, le chapitre le plus important, c'est évidemment le premier chapitre qui traite de la personne humaine, de l'homme créé à l'image de Dieu, imago Dei. Et vous allez voir que là aussi, c'est l'un des fils conducteurs des discours de Ratzinger. Ce qui veut dire que dans ces discours, il y a en trame cette pensée politique de l'Église, on appelle maintenant doctrine sociale, mais le terme de pensée politique est plus juste, qui charpente l'ensemble de ces deux discours. Et ce qui est également intéressant, c'est la méthode du cardinal Ratzinger, qui à certains propos est un petit peu le dernier père apostolique, si je puis dire. Pourquoi ? Parce que c'est un homme qui est augustinien, il a lu Saint-Augustin. Il a consacré sa thèse à Saint-Augustin. Et dans la méthode qu'il utilise, il y a énormément d'éléments qui sont ceux de la méthode de Saint-Augustin. Je pense notamment à la conférence qu'il a donnée à Caen, où vous verrez qu'il cite évidemment les Écritures, il cite la tradition, mais il cite également les auteurs classiques. Il y a tout un chapitre qui est consacré à l'analyse du Gorgias de Platon. C'est exactement ce que faisaient les pères de l'Église ou les docteurs apostoliques, c'est-à-dire de prendre la littérature classique et d'en porter un regard à travers la révélation chrétienne. Et puis, il prend également des auteurs contemporains, il en cite trois, dont il prend leurs analyses et il les critique au sens propre, c'est-à-dire qu'il les analyse au regard de la pensée chrétienne. Donc sa méthode est aussi extrêmement intéressante, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un discours théologique, c'est aussi un discours qui est en dialogue à la fois avec les auteurs contemporains et avec les auteurs classiques, qui sont évidemment des auteurs qui nous parlent encore aujourd'hui. C'est le propre des classiques. Et ça innerve complètement la pensée de Joseph Ratzinger dans ces deux textes, comme d'ailleurs pour les autres aussi, hein, pour tous ceux que vous aurez au cours de cette année, mais particulièrement dans ces deux textes. Donc là, il nous parle des rapports entre la guerre et la paix, le rapport aux nations, et il y a trois thèmes qui sont particulièrement intéressants, donc ils vont faire mes trois parties, hein, évidemment. Le premier, c'est celui de l'espérance, qui est probablement le plus émouvant, surtout pour lui, jeune Allemand qui a connu l'arrivée du nazisme, qui a vu la guerre, qui a vu la défaite. La notion de l'espérance est un point qui est vraiment le point saillant de son discours dans le cimetière allemand. La question du droit et celle de l'éthos. Et on va voir que ça, c'est la dernière partie, qui n'est pas la partie la moins intéressante. Et là aussi, Ratzinger a conçu son discours autour de cette relation de l'éthos. Voilà. J'ai évoqué très brièvement la biographie de Joseph Ratzinger. Alors, bon, vous la connaissez, hein, donc je ne vais pas évidemment m'étendre dessus. Je signale juste qu'il y a une excellente biographie qui a été réalisée par Peter Sewald, qui est probablement la meilleure biographie qui existe, en deux volumes, qui a été traduite en français par un prêtre qui est le curé de la paroisse francophone de Vienne et qui a donc traduit ces textes et que je remercie via la caméra puisque j'ai pu échanger avec lui sur certains points. Donc si jamais il regarde la vidéo, qu'il en soit chaleureusement remercié. Mais la traduction est de très bonne qualité et la biographie aussi, c'est une vraie biographie à la française, si je puis dire, donc qui analyse à la fois la vie et la pensée de l'auteur et qui met de côté tout ce qui peut être tout simplement un peu commérage ou anecdote guère intéressante. Donc c'est une biographie, mais c'est aussi une œuvre philosophique, théologique qu'a fait Peter Sewald et qui permet de comprendre à la fois la pensée de Ratzinger, mais également l'histoire de l'époque, hein, l'histoire de l'Église au XXe siècle. C'est l'intérêt d'une biographie, c'est qu'on a aussi l'histoire d'une période. Voilà. Alors, commençons, je vais prendre les deux discours, ce sera plus simple pour les citer, et notamment, alors je vais prendre celui de au cimetière allemand, et ce discours au cimetière allemand commence extrêmement fort, je vous lis la première phrase. « C'est le moment de nous mettre à genoux, plein de respect devant les morts de la Deuxième Guerre mondiale, nous rappelant les innombrables jeunes gens de notre patrie, leur devenir, leurs espérances détruites au cours de ces sanglants massacres de la guerre. » Ratzinger commence par cette phrase, « C'est le moment de nous mettre à genoux », on pourrait dire « mettons-nous à genoux ». Évidemment, pour le liturgiste qu'il est, ça a une signification particulière, puisque c'est la prière que l'on récite, l'invocation que l'on récite tous les vendredis saints, lors de la cérémonie de la Passion, où, si vous vous rappelez, puisque ça a lieu tous les ans, on fait ces longues prières pour l'Église, pour le Pape, pour les Juifs, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, et qu'on ponctue par le fait de se mettre à genoux, hein, à l'invocation du célébrant, mettons-nous à genoux, et ensuite, levons-nous. Donc, quand Ratzinger emploie cette expression de « mettons-nous à genoux », il y a évidemment cette dimension qui est présente d'une introduction directe dans le Vendredi Saint et plus exactement dans le Vendredi de la Passion, c'est-à-dire de la douleur, de la douleur devant l'ensemble de ces jeunes gens qui sont morts. Les cimetières allemands sont même un mois de juin en Normandie, et même avec quelques rayons de soleil, ce ne sont quand même pas des lieux les plus poétiques ou les plus beaux qui soient, les plus joyeux qui soient. Donc il y a ce mystère de la mort, ce mystère de ces jeunes gens qui sont à peine plus âgés que Joseph Ratzinger, puisque lui aussi a fait la guerre. En 1944, il a été mobilisé comme jeune adolescent. Ça pourrait être lui, hein, qui soit sous ces tombes de ce cimetière allemand de Cambes. Donc il nous introduit dans ce mystère de l'humanité qui est celui de la guerre, de la destruction, de la violence, et de savoir si finalement ces Allemands qui sont morts, est-ce qu'ils sont morts pour rien ou est-ce qu'ils sont morts pour quelque chose, d'autant qu'ils sont dans le mauvais camp, ils sont dans le camp de l'Allemagne nazie. Et il y a là effectivement une question, alors qui n'est pas la question des Français, on a d'autres questions, mais en tout cas pour les Allemands, évidemment, de se poser la question de savoir si ces jeunes Allemands qui sont morts en combattant pour le nazisme, est-ce qu'ils peuvent avoir une rédemption possible, sachant qu'ils ont mis leur vie au service d'une idéologie et d'un régime sans justice, comme le dit Joseph Ratzinger, et d'un régime totalitaire. Donc il nous fait rentrer immédiatement dans la passion, dans la mort, en nous rappelant évidemment, et c'est la suite du discours, que l'histoire ne s'arrête pas au Vendredi Saint. L'histoire ne s'arrête pas à la passion, elle ne s'arrête pas à la mort du Christ. Il y a ce samedi de l'attente, du tombeau, de la tombeau vide et du vide du Christ, et puis il y a surtout le dimanche de la résurrection. Et le dimanche de la résurrection, c'est celle de la nouvelle vie. Joseph Ratzinger l'aborde par le sujet de la réconciliation, qui est le deuxième point important de son discours, la réconciliation des peuples européens. Il cite notamment ceux qui ont contribué à cette réconciliation. C'était le grand travail, notamment de la réconciliation franco-allemande, dont je vous rappelle qu'elle a été scellée par le général de Gaulle à Reims, par une messe qui a été célébrée par l'archevêque de Reims de l'époque, avec le général de Gaulle et Konrad Adenauer. Et évidemment, pour Joseph Ratzinger, c'est un point important, et c'est un autre aspect du discours dans l'espérance, c'est que la réconciliation ne peut se faire qu'autour du Christ. Et c'est parce qu'on avait des nations chrétiennes qu'elles ont pu dépasser leurs horizons un peu étroitement nationalistes et trouver une réconciliation qui ne soit pas une réconciliation uniquement politique, mais qui est une véritable réconciliation, c'est-à-dire dans le pardon mutuel, et une réconciliation dans quelque chose qui rassemble profondément l'ensemble des peuples, à savoir la foi chrétienne. Et un peu plus tard, on verra que Joseph Ratzinger parle des racines chrétiennes de l'Europe, et on va voir le sens qu'il donne aux racines chrétiennes, qui est un sens beaucoup plus fort qu'un simple discours politique ou un simple slogan politique. Donc il y a d'un côté ces morts allemands et de l'autre cette réconciliation qui est une forme de résurrection. Une résurrection au sens propre. On peut penser évidemment à l'Allemagne qui a été abondamment détruite, à la fois matériellement et moralement, la France aussi. Donc il y a eu la reconstruction matérielle. Il l'évoque notamment avec le plan Marshall ou avec les efforts qui ont été faits en Allemagne après-guerre pour reconstruire le pays d'un point de vue matériel. Mais il y a surtout la reconstruction morale. Et d'ailleurs, il ne peut pas y avoir de reconstruction matérielle s'il n'y a pas auparavant une reconstruction morale. Parce que sinon, c'est l'âme même du peuple qui est brisé. J'ai échangé il y a une semaine avec une très belle revue de géopolitique en Italie qui s'appelle l'IMES. Et j'ai échangé avec le directeur de l'IMES et je vous parlais de la démographie italienne, qui est assez chancelante. Et il a fait une remarque qui est tout à fait juste, faisant remarquer que les trois pays occidentaux, on pourrait dire au sens large, trois pays qui ont la démographie la plus faible, c'est le Japon, l'Allemagne et l'Italie. C'est-à-dire les trois pays qui sont les trois pays vaincus de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'ils se sont matériellement reconstruits, on le voit avec le Japon, avec l'Allemagne et avec l'Italie, mais il y a eu, et c'était la conclusion de cet intellectuel italien, il y a eu une cassure morale qui n'a pas été complètement surmontée aujourd'hui, qui fait que ça se voit notamment dans une démographie faible, ou des Kurdes. On le voit aussi d'ailleurs dans les anciens pays communistes. Hein, les Polonais, les Hongrois, ils font des efforts, mais la politique ne peut pas tout. Hein, s'il n'y a pas un réveil moral ou un réveil de sens de la vie, eh bien la question démographique n'est pas relevée. Donc on a là une cassure qui peut empêcher la reconstruction morale. Et évidemment, Joseph Ratzinger insiste beaucoup là-dessus. Alors, il s'interroge sur ces jeunes Allemands qui ont donné leur vie pour l'Allemagne, pour le nazisme, en rappelant que ces jeunes Allemands, alors certains ont fait ça évidemment par adhésion à l'idéologie, d'autres ont fait ça un peu malgré eux en étant forcés, c'est le cas notamment de Ratzinger, et d'autres ont fait ça en étant trompés. Il a cette phrase qui est très forte en disant « Leur élan, leur idéal, leur loyauté envers l'État a été instrumentalisé par un régime sans justice. » Alors je reviendrai en deuxième partie, cette notion de régime sans justice et ce rapport que fait Joseph Ratzinger entre le nazisme et l'instrumentalisation de la justice et notamment d'un régime sans justice. Logos et sans ethos. On y reviendra en deuxième partie. En tout cas, il y a cela, et si il se met à genoux devant ces morts allemands, c'est aussi pour cette espérance-là, cette espérance de la résurrection de l'Europe, et c'est ça le sens de la commémoration. C'est pas simplement commémorer des morts, c'est se rappeler que leur mort n'a pas été inutile, parce qu'après eux, il y a eu la réconciliation. Il y a eu une paix qui a été établie. L'Europe a connu l'Europe occidentale, du moins, sa plus grande période de paix jusqu'à aujourd'hui. Il y a les guerres dans les Balkans, puis maintenant il y a la guerre en Ukraine, mais la France et l'Allemagne ne sont plus faites la guerre depuis 1945, ce qui est quand même une prouesse au regard de l'histoire des deux pays. Et donc cette mort n'est pas inutile. Cette mort n'est pas vide. Elle a une signification spirituelle, qui est celle de la réconciliation. Et donc on voit que si on commence par la passion, par ce temps de ténèbres, eh bien on termine par ce temps d'espérance qui est celui de la résurrection. Et il évoque notamment ces jeunes Allemands qui se présentent devant Dieu à leur mort, comme n'importe quel être humain, et qui se présentent évidemment devant le jugement de Dieu, de savoir s'ils peuvent accéder au paradis, s'ils pourront être pardonnés, alors que certains ont pu tuer d'autres personnes, voire adhérer à un régime qui était un régime impie et injuste. Ce qui est une vraie interrogation spirituelle, bien évidemment. Ce qui amène au deuxième point, qui est la notion de droit, rapport de droit et de justice. Alors j'évoquais en introduction la trame qui est celle de la doctrine sociale de l'Église, qui rappelle dans les deux premiers chapitres que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc s'il est créé à l'image de Dieu, ça veut dire que l'homme est créateur, il peut lui aussi créer, c'est ce qui fait d'ailleurs son génie, et s'il est créé à l'image de Dieu, il a également une dignité qui évidemment le distingue d'un animal ou d'un végétal, puisqu'il a ce souffle de Dieu en lui. Et si l'homme est créé à l'image de Dieu, il est donc une personne, et la personne est un être de relation, et donc d'amour. C'est ça la différence fondamentale qu'il va y avoir entre un régime totalitaire comme le nazisme et un système politique chrétien. C'est-à-dire que dans un système politique chrétien, l'être humain est considéré comme une personne, alors que dans un régime totalitaire type nazi, l'être humain est considéré comme une chose, comme un objet au service d'une idéologie, au service d'un État. Ratzinger évoque le parti-État, hein, la structure étatique qui est utile, évidemment, pour structurer une société, mais qui est détournée au service d'une idéologie pour mettre les êtres humains à son service. Et donc l'État n'est plus un moyen, mais l'État devient une fin en soi, et ce sont les personnes qui deviennent les moyens de cet État. Alors que dans un système politique juste, la personne humaine est la fin, elle est la finalité, elle n'est pas le moyen. Alors il a des mots très forts, et là je vais aller au deuxième discours, même s'il évoque aussi un peu dans le premier, mais c'est pour utiliser les deux, évidemment, lorsqu'il rappelle que dans le régime nazi, le droit et l'injustice s'imbriquent. Il y a une imbrication du droit et de l'injustice, c'est-à-dire que le droit est quelque chose de nécessaire, on va y revenir, et le droit est normalement mis au service de la justice. Le droit que Joseph Ratzinger évoque, c'est évidemment la notion de droit naturel. Le droit naturel découle des 10 commandements. Et en fait, l'être humain est là confronté à un choix qui est un choix fondamental, c'est soit les 10 commandements, soit le veau d'or. Donc soit un système chrétien, soit un système païen. Le nazisme est une idéologie profondément et intrinsèquement païenne. Il y a un très beau documentaire, si je vous invite à voir, si vous voulez comprendre ce qu'est le nazisme, qui est les dieux du stade de Leni Riefenstahl, alors qui a tout inventé en matière de cinéma, le travelling, la contre-plongée, donc d'un point de vue cinématographique, c'est absolument parfait. Ce n'est pas un film, comme on l'entend parfois, c'est un documentaire, puisqu'elle filme le congrès du parti nazi, du NSDAP, à Nuremberg. Et donc elle place ses caméras, et comme elle est une femme géniale en matière de maîtrise du cinéma, eh bien, de ce congrès du NSDAP, elle en fait un film documentaire qui prend véritablement celui qui le regarde en haleine, et en plus c'est très bien monté. Et il y a deux moments qui sont extrêmement intéressants dans ce film. Le premier, c'est que Riefenstahl filme toujours la foule, donc on voit la foule, et la seule personne que l'on distingue, c'est-à-dire dont on voit le visage, dont on voit l'expression du visage, c'est Hitler. Et par cela, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas de sa part, mais enfin, elle a aussi filmé ce que tout le monde voyait, mais elle ne filme jamais les visages des SA ou des SS qui sont présents. Elle montre bien que la personne humaine a disparu. Elle a disparu et la seule personne que l'on voit, c'est celui qui conduit ces foules. Et puis, il y a un autre moment qui est extrêmement fort et qui permet de comprendre l'essence du régime nazi, c'est une procession au Saint-Sacrement qui a lieu au sens propre. On a l'impression d'être à la fête Dieu. Donc il y a des SA qui portent une sorte de, enfin, qui portent donc dessus une sorte de Saint-Sacrement avec des étoiles, des rayons. Mais à la place de l'hostie, c'est une croix gammée. Et là, c'est pas innocent, évidemment, quand Albert Speer c'est lui qui a chorégraphié ce congrès, il s'est probablement inspiré de ce qu'il a vu, lui, étant enfant, dans les rues allemandes, lorsqu'il y avait les processions au Saint-Sacrement. Il a repris, c'est vraiment un copier-coller de ces processions, mais il a remplacé l'hostie par la croix gammée. Et c'est extrêmement puissant parce que ça montre bien la logique profondément païenne du régime nazi. C'est ce que Raymond Aron appelait une religion politique. On est bien là dans le cadre d'une religion, une religion politique, qui est une religion païenne, avec le culte de l'État, avec le culte du chef, de l'idéologie, qui aboutit à la suppression complète des personnes. Et là, on n'est plus dans un droit qui est fondé sur le droit naturel, parce que normalement le droit positif découle du droit naturel, enfin, si on a un système juridique qui est bien ordonné. Là, on a au contraire un droit positif qui façonne le droit naturel. Plus exactement, la nature devient ce que le législateur veut en faire. Alors, Ratzinger n'emploie pas l'expression dans les deux discours qu'on a aujourd'hui, mais c'est quand même en toile de fond, c'est ce que lui a appelé la dictature du relativisme. La dictature du relativisme, c'est l'idée que le législateur peut faire à sa guise la nature humaine, il peut la modifier, puisque la loi ayant force naturelle, la loi peut modifier l'homme, et ce qu'a fait un législateur peut, un autre peut le modifier, non pas simplement pour des questions de 35 heures ou de tickets restaurant, savoir si on peut acheter des pâtes ou pas, c'est pas le sujet. Ça porte sur les questions fondamentales de l'anthropologie. Le législateur peut décider qui est un homme, qui est une femme, ou d'autres sujets fondamentaux. C'est le discours de Pilate au Christ, quand Pilate lui dit « qu'est-ce que la vérité ?» La vérité, c'est Pilate. C'est-à-dire que c'est l'empereur qui peut faire la vérité. Et là, c'est Hitler ou Staline qui peuvent faire la vérité. Donc on est bien dans cette dictature du relativisme, qui d'ailleurs a été le fil directeur du discours de Joseph Ratzinger avant son élection, au moment de la messe qui devait ouvrir le conclave, et ça a été aussi un des fils rouges de son pontificat. Donc remettre la vérité au centre de la société, et la vérité, On sait bien que dans une société, il y a des choses qui sont discutables. La couleur des chaises, par exemple, c'est quelque chose qui est discutable, qui est d'ailleurs régulièrement très fortement discuté. Il y a rarement un consensus sur la couleur des chaises ou sur la tapisserie dans un salon. Mais en revanche, il y a des choses qui ne sont pas discutables, et notamment la notion de personne humaine.
Ou la dignité de la personne humaine, ça, ce sont des choses qui ne sont pas discutables. Et dans le régime nazi, eh bien, le droit étant au service de l'injustice,
puisque droit et injustice se sont imbriqués, eh bien, on a une disparition de ce droit positif. Alors, quelques extraits de ce discours, je vous lis comme ça quelques phrases. L'état de droit lui-même, qui continuait en partie à fonctionner sous ses formes habituelles dans la vie quotidienne, était devenu en même temps une puissance de destruction du droit. Alors, l'état de droit, il y a deux manières de traduire état en français. Soit c'est l'état au sens état français, avec donc une majuscule, soit c'est état au sens de situation, un état gazeux, par exemple. Donc on peut faire une interprétation double de la notion d'état de droit, mais l'état de droit, c'est aussi une situation où le droit est respecté. Alors ça aboutit à un état qui respecte le droit, il y a une administration qui respecte le droit, mais c'est aussi un état où le droit est respecté. Et là, au contraire, la puissance étatique est devenue un instrument au service de la destruction du droit, donc avec le règne de l'injustice. Et avec, nous dit Ratzinger, la perversion des ordonnances qui, au lieu de servir la justice, se sont mis à produire l'iniquité. À un moment donné, Joseph Ratzinger explique que la paix est la source et permise par le respect du droit. Ça, c'est une citation d'Isaïe, opus justitiae pax. La paix est l'œuvre de la justice. Et la paix est l'œuvre de la justice, c'est la devise de Pie XII. Or, Joseph Ratzinger a eu beaucoup d'admiration pour Pie XII. Il a fait un très beau discours sur Pie XII en expliquant que c'était le pape de sa jeunesse et qu'il avait une grande admiration pour lui. Et Pie XII, lorsqu'il est devenu pape, a donc choisi cet extrait d'Isaïe comme devise, opus justitiae pax, la paix est l'œuvre de la justice, d'abord parce qu'il savait qu'il aurait affronté une guerre qui allait être terrible, mais aussi parce qu'il a compris que la paix, c'est la paix des armes, donc c'est la fin des conflits, mais ça va au-delà de ça. La paix, c'est aussi la paix des cœurs, c'est aussi la paix des peuples, et c'est aussi une paix qui soit une paix de justice. Il y a différents types de conflits, il faut avoir des conflits armés, on peut avoir des guerres économiques, on peut avoir des conflits sociaux, on peut avoir des conflits dans la famille, et ce sont l'ensemble de ces conflits qui se règlent par la justice. La paix doit permettre ça, l'établissement de la justice. Ratzinger évoque, au sujet du nazisme, la domination du mensonge. Il parle du régime de la peur. Alors, on n'a pas forcément connu ça, donc on se rend pas compte de ce que ça a pu représenter, mais lui l'a connu. Son père qui doit être prudent lorsqu'il parle, parce que sa famille, Ratzinger, est une famille anti-nazie, parce qu'il voit des prêtres ou des amis qui sont arrêtés et déportés. Donc il y a ce régime de la peur, et il a cette expression qui est trop très forte, où il parle du masque du mensonge. Pareil masque servait à se protéger soi-même, mais contribuait d'autre part à renforcer le pouvoir du mal. Ça, c'est quelque chose qui est absolument terrible. J'en parlais avec un ami russe qui a vécu à l'époque soviétique. Il me disait, en fait, quand le régime soviétique s'est effondré, je me suis rendu compte que dans ma famille, tout le monde était anticommuniste. Mais personne n'avait osé le dire. Parce qu'on ne savait pas si le voisin, l'oncle, l'ami n'était pas un agent du KGB qui n'allait pas nous dénoncer. Donc on prend le masque du mensonge pour se protéger, et protéger sa famille, mais ce faisant, on contribue à maintenir un régime injuste. Et c'est ce paradoxe terrible que mentionne Ratzinger, le masque du mensonge, c'est aussi le masque qui cache le visage. Il y a une très belle analogie à faire, dans la Bible, le visage est omniprésent. Moïse peut regarder Dieu face à face. Véronique essuie le visage du Christ, et le visage du Christ se met sur le voile. Le christianisme est la foi du visage. C'est pour ça que les peintres chrétiens peignent des visages. Et autant de Pietà et autant de tableaux du Christ, autant de visages. Le visage est vraiment le symbole, le signe de la personne humaine. Un régime qui nie la personne humaine commence par supprimer le visage, par nier l'existence même du visage. Alors ça se voit dans l'art. J'ai évoqué Liné Riefenstahl, on a des personnes qui sont toutes les mêmes, et on le voit aussi, et là c'est un de mes sujets d'étude depuis de nombreuses années, à travers le masque. Le masque est porté dans les rites vaudous, par exemple, ou dans les religions bouddhistes, notamment en Thaïlande. On a le masque partout. Et le masque supprime le visage, donc il supprime la personne humaine. Alors que dans le christianisme, justement, il n'y a pas de masque, parce qu'on a un visage. Et ce visage exprime quelque chose. On sait bien que c'est difficile de mentir, parce qu'on peut mentir en mots, mais le visage, les yeux trahissent le mensonge. Donc revêtir le masque du mensonge, c'est supprimer son visage, et donc c'est supprimer sa personnalité, c'est supprimer une part de son humanité. Et ça, c'est le paradoxe terrible que souligne Joseph Ratzinger, c'est que se protégeant du nazisme, sa famille, ses amis mentent, et en mentant, elle se protège d'une idéologie qui veut les tuer, mais ce faisant, elle contribue aussi à se dégrader, parce qu'il y a une habitude du mensonge, et qu'on ne peut pas vivre perpétuellement dans le mensonge. Et d'ailleurs, ça c'est un très beau texte de Jean-Paul II, qui dans « Centesimus annus » en 1991, explique que le régime communiste, quand l'encyclique paraît, le soviétisme n'est pas encore tombé, c'est avant décembre 1991, mais ce qui a fait tomber le soviétisme, ce ne sont pas les armes, ce n'est pas une révolte armée, comme on a eu à Budapest ou à Prague en 1956 et en 1968, c'est par la culture, par des gens qui individuellement se sont levés, ils ont refusé de porter le masque du mensonge, ont déposé le masque. Alors certaines ont mal fini, mais par leur mort, elles ont aussi contribué à briser le régime qui voulait imposer ce mensonge. Alors Joseph Ratzinger revient sur d'autres aspects, notamment donc le rapport entre paix et justice, je l'ai évoqué, et il insiste énormément sur cette notion de justice. La notion de justice est très importante, d'autant qu'elle a complètement disparu de la pensée politique et du langage politique. Vous remarquerez que lors des élections, quelles qu'elles soient, on ne parle plus de justice. On l'a remplacée par égalité ou inégalité. Or, ce n'est pas la même chose. D'abord, tous les auteurs classiques, Platon, Aristote, enfin tous, jusqu'au 19e, au début 20e siècle, parlent de la justice comme étant un des aspects cardinaux de la politique. L'égalité n'est pas juste par nature. Vous avez des égalités qui sont justes et d'autres égalités qui sont injustes. Quand je note les partiels de mes étudiants, eh bien, il y a une égalité de notes, mais cette inégalité de notes est le symbole même de la justice. D'ailleurs, ils s'en rendent bien compte et ils sont ravis, évidemment, qu'il y ait cette inégalité pour que justice soit rendue. Et là, on a une confusion, parce qu'effectivement, l'égalité est une notion ambiguë. Alors, il y a une égalité juridique, évidemment. Les êtres humains sont égaux en droit, et le droit doit s'appliquer pour tout le monde, mais il n'y a pas égalité de talent, il n'y a pas égalité de taille, il n'y a pas égalité de vertu. Et la promotion de l'égalité ou de l'égalitarisme en vient à détruire la personne humaine elle-même. Et donc Ratzinger insiste bien sur cette notion de justice qui est l'élément principal de la politique, même si aujourd'hui cette notion de justice a tendance à disparaître. Alors, il évoque la guerre, il évoque notamment la guerre juste. Ce faisant, on doit penser à son maître saint Augustin, qui a été un des premiers grands auteurs chrétiens à définir ce qu'était la guerre juste. Et notamment, il a cette très belle phrase où il dit ceci. Donc, il parle du caractère insoutenable d'un pacifisme absolu. Pourquoi ? Parce que justement, commémorant le débarquement le 6 juin 1944, c'est par la guerre et par le sacrifice de jeunes soldats qu'on a pu abattre un régime impie qui s'imposait aux âmes lui-même par la violence. Donc là, c'est cette notion de guerre juste, une notion évidemment complexe et parfois difficile à définir et à entendre, notamment dans la proportionnalité des moyens. Mais en tout cas, là, il y a une guerre qui permet de rétablir la justice. Donc, une force qui vient combattre la violence. C'est-à-dire que la guerre injuste, c'est l'usage de la violence. La guerre juste, c'est l'usage de la force. Alors c'est vrai que la frontière entre les deux est parfois ténue et difficile, mais il n'empêche que là, c'est par ce biais-là qu'on a pu renverser ce régime. Il y a donc cet usage de la guerre juste pour établir le droit, pour établir la justice au sein des, au sein de l'Europe et au sein des nations. Alors, j'avance un petit peu parce que l'heure tourne, même si on pourrait y passer la nuit, mais enfin, ce n'est pas l'objet de ce cycle, donc je vais essayer de me tenir à l'horaire qui m'a été fixé, pour arriver au troisième point, qui est la notion du logos. Alors qu'évidemment, on découle des deux premiers. Il y a une articulation logique, évidemment, chez le cardinal Ratzinger. La notion du logos, elle est là fondamentale, et il articule le rapport entre le logos, on pourrait traduire par la raison, une traduction un peu pauvre, mais enfin, c'est comme ça que généralement qu'on le traduit, cette articulation entre le logos et l'éthos, donc entre la raison et la morale. Dans ces textes, il ne parle pas de l'hellénisme, mais là aussi, c'est la trame intellectuelle. Joseph Ratzinger est un Romain, et comme tout Romain, évidemment, il a été imbibé d'hellénisme, il a été imbibé d'histoire grecque, raison pour laquelle il consacre un grand paragraphe à l'étude du Gorgias de Platon. Pourquoi ? Parce que l'hellénisme ou l'hellénisation, c'est justement l'arrivée du logos, l'importation du logos dans la manière de penser et de réfléchir. Et sa démarche intellectuelle est très belle, parce qu'on voit comment il reprend les concepts grecs en les christianisant. C'est ce que les auteurs antiques appelaient la préparation évangélique. Il y a eu un grand débat chez les auteurs antiques pour savoir si on pouvait utiliser les philosophes païens pour faire de la théologie. Qu'est-ce qu'on fait de Platon et Aristote? Est-ce qu'on les jette en disant qu'ils sont des païens, donc ils n'ont rien à nous apporter? Ou est-ce qu'au contraire, on les prend et on les christianise? Quand on lit Thucydide, qui est un de mes auteurs de chevet, c'est merveilleux, quand on est lucide, on a l'impression quasiment il manque juste le Christ, mais sinon on pourrait lire un auteur chrétien. Et les auteurs classiques, pardon, les auteurs, premiers auteurs évangéliques, ont conclu en disant on va prendre les auteurs classiques et on va en faire une lecture chrétienne. Finalement, Aristote, Platon, Thucydide sont des proto-chrétiens. Ils sont chrétiens sans le savoir. Et c'est comme ça que saint Thomas d'Aquin a pu après bâtir sa somme théologique. Et c'est exactement ce que fait Joseph Ratzinger en prenant les concepts grecs et en les christianisant, en les romanisant, pour pouvoir nous faire comprendre ces rapports entre le logos, entre la raison et la morale. Alors là, quelques thèmes, je ne vais pas forcément tous les développer parce que comme c'est l'objet d'autres discours, d'abord je ne veux pas trop marcher sur les plates-bandes de ceux qui vont me suivre, et puis comme ça, ça vous encouragera ou ça vous incitera à revenir pour avoir la suite de l'histoire. Donc je ne vais pas tout délivrer ce soir, mais en tout cas, le logos s'oppose chez les Grecs au mythe, le mythos. C'est le grand passage notamment chez les Grecs, vous savez, Homère, on est dans le mythe complet. Après on a Hérodote, alors c'est un mélange de mythos et de logos. Dans les histoires d'Hérodote, quand il parle des guerres médiques, c'est parfaitement historique. Et puis dès qu'il commence à parler de l'Inde, là on a des êtres un peu, des créatures un peu bizarres, avec un corps d'homme et puis des pattes de chèvre. Bon, ça n'a pas vraiment existé. Donc là, on est plus dans le mythe. Et puis Thucydide, on est dans le logos chimiquement pur, à tel point qu'il n'y a même plus d'intervention divine. On n'a plus Apollon qui vient rebattre les cartes pour empêcher Alcibiade de gagner ou de perdre la guerre. Donc on a ce passage dans l'histoire grecque du mythe, du mythos au logos. Sachant que le mythe, ce n'est pas quelque chose de faux. Le mythe, ce n'est pas l'erreur. Dans le mythe, il y a toujours une part de vrai. Simplement, cette part de vrai a été édulcorée, a été transformée, si bien qu'on en arrive à ne plus savoir dissocier ce qui est vrai ou ce qui est faux. La guerre de Troie, par exemple, a vraiment eu lieu. On a des traces archéologiques de la guerre de Troie. Mais la guerre de Troie telle qu'elle a eu lieu n'est pas la guerre de Troie telle qu'elle est racontée par Homère. Et on a bien des relations à l'époque d'Hérodote entre les Grecs et les Indiens, enfin les gens qui sont en Inde aujourd'hui, mais ce n'est pas, les gens d'Inde ne sont pas comme Hérodote les raconte. Ce qui veut donc dire, si je prends l'optique de Ratzinger, qu'il n'y a pas une opposition entre dans le logos et le mythos entre le vrai et le faux, mais une opposition dans le regard sur la réalité, sur le monde réel. C'est-à-dire que le mutos regarde la réalité avec les yeux de la superstition, soit avec un manque de religion, soit avec trop de présence de religion, alors que le logos, il regarde la réalité avec les yeux de la foi, avec le regard de la foi. Et ça, c'est un des thèmes constants chez Ratzinger et après Benoît XVI, qui est l'idée que, évidemment, il n'y a pas d'opposition entre la foi et la raison, mais que la raison doit purifier la foi et que la foi doit purifier la raison. Donc on a une purification mutuelle de l'un et de l'autre. On regarde la foi avec les yeux de la raison, ce qui s'appelle la théologie, c'est-à-dire ce que disait déjà le Concile Vatican I. Ça n'a pas duré très longtemps le Concile Vatican I, mais ils ont quand même eu le temps de faire deux textes fondamentaux, dont un qui explique qu'il n'y a pas d'opposition entre la foi et la raison, ce qui au XIXe siècle était quand même utile à rappeler. Et également que la raison doit être purifiée par la foi. Donc il n'y a pas d'opposition entre les deux, il y a simplement une différence de méthode. Et ce logos permet donc de bâtir la société, il permet de bâtir un monde qui est fondé sur la justice et qui est fondé notamment sur la notion chrétienne de justice. Alors, encore une fois, ce logos chez Aristote, pardon, chez Ratzinger, c'est évidemment le logos grec, mais avec les 10 commandements et avec la révélation divine. Ce qui amène à deux autres points. Le premier, qui est la question de la sécularisation, et le second, qui est la question des racines chrétiennes de l'Europe. Alors, abordons la sécularisation. Là aussi, Joseph Ratzinger nous donne quelques pistes et quelques manières d'aborder le problème. Dans les années 1970, c'était un concept qui était extrêmement à la mode. On parle de la sécularisation, sous-entendu, il y a une logique dans l'histoire, il y a une marge de l'histoire, et donc après l'époque chrétienne, vient un monde sans Dieu, un monde sécularisé, où il n'y aura plus de Dieu, et où triomphera la raison pure et parfaite. Cette idée de sécularisation commence à être un peu revue dès les années 1990, et notamment, vous voyez, cette idée un peu de Marcel Gauchet qui expliquait que le christianisme était la religion de la sortie de la religion. Et en fait, pas du tout. Il n'y a pas de sécularisation. Il y a au contraire un retour aux superstitions et un retour au paganisme. C'est-à-dire que si la raison est coupée de la foi, on ne va pas dans une raison qui est sans foi, une raison qui serait chimiquement pure, mais on voit au contraire vers une disparition de la raison et vers un retour au mythe et vers un retour au mythos. Donc, les auteurs des années 70 qui croyaient à la sécularisation, en fait, ont fait une erreur qu'on peut leur pardonner à l'époque, mais en tout cas qui aujourd'hui se manifeste comme une erreur, à savoir qu'on ne passe pas d'un monde chrétien à un monde post-chrétien, on passe d'un monde chrétien on retourne à un monde païen, à un monde où le paganisme est de nouveau omniprésent. Et notamment, c'est le grand sujet qu'évoque Joseph Ratzinger sur le fait que quand on retire le droit naturel, quand on retire les 10 commandements qui fondent le droit dans une société, eh bien, on a ces manifestations, par exemple, de régimes totalitaires comme le nazisme et le communisme, qui sont des régimes païens, qui sont des religions politiques. Et aujourd'hui, on le voit avec des éclosions de religiosité tout à fait bizarres, mais qui prennent un pas de plus en plus important. D'ailleurs, là, enfin, Ratzinger ne le fait que survoler, notamment dans les discours au cimetière, quand il parle du purgatoire, quand il parle du paradis. Mais évidemment, la grande question qui est posée, c'est celle de l'âme après sa mort, et donc du jugement dernier. Et Joseph Ratzinger, il consacre un grand paragraphe dans le Gorgias. Alors, je l'ai tellement cité que je vais quand même m'y arrêter un petit peu, sinon vous allez vous dire que j'ai cité quelque chose sans l'avoir cité. Donc je vous assure, il parle bien du Gorgias dans ce discours, et notamment, il prend dans le Gorgias la partie de l'âme, où il cite Platon. Platon explique qu'après la mort, les âmes vont vers un être créateur et que cet être créateur les voit telles qu'elles sont. Donc celles qui ont caché leurs fautes, celles qui ont caché leurs péchés, c'est pas le terme qu'emploie Platon, mais enfin c'est le terme que nous on peut employer, et bien là, cet ordre créateur les voit telles qu'elles sont, sans possibilité de se cacher. Et donc Joseph Ratzinger explique bien que c'est là la vision de l'eschatologie, et qu'évidemment on peut en faire une lecture chrétienne, d'une eschatologie chrétienne. Mais en fait c'est le vrai sujet. C'est-à-dire la question du logos et la question de la mort et la question de ce qui vient après la mort. Ces jeunes Allemands qui ont porté l'uniforme de la Wehrmacht et pour d'autres celui de la SS, qu'est-ce qu'ils deviennent après leur mort? Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce qu'ils vont en enfer? Est-ce qu'ils vont au purgatoire? Est-ce qu'ils peuvent accéder au paradis? C'est une vraie question peut-être pour eux, si cela sont posés avant de mourir, et probablement pour leurs proches ou pour ceux qui leurs enfants ou leurs épouses qui ont pu vivre après eux. Et c'est effectivement le sujet important, hein, ce rapport à l'eschatologie et ce rapport de la vie, hein, après la mort. Est-ce que la vie se poursuit autrement ou est-ce que la vie se détruit? Et ce faisant, Ratzinger applique ce concept également aux nations. Alors je reviens au compendium de la doctrine sociale de l'Église. Parce que vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce que deux chapitres sur 12, c'est quand même beaucoup, c'est un sixième, pourquoi est-ce qu'on a deux chapitres sur 12 qui traitent des relations internationales et de la paix? En fait, c'est extrêmement logique. Si l'être humain est une personne créée par Dieu, il est donc un être de relation. Donc la personne humaine s'associe. En s'associant, ben, elle tisse des amitiés, hein, des amis avec qui on a des relations intellectuelles, amicales, et puis la personne humaine, elle se marie. Se mariant, elle fonde donc une famille. La famille étant la cellule de base de la société. L'addition des familles, ça forme une nation, au sens propre, puisque nation, ça veut dire, c'est la nation, c'est ce qui naît. On peut aussi donner patrie. Patrie, c'est ce que l'on a hérité. La terre des pères, donc les personnes s'associent, ça fonde des familles, ça crée une société, une amitié politique, et cette association d'amitié politique crée la nation. Et la nation crée ensuite les relations internationales. Donc les relations internationales, du moins la vision chrétienne des relations internationales, découlent de la vision chrétienne de la personne humaine. Et ces relations internationales sont bien des relations entre les nations. Et ça, c'est un point sur lequel Ratzinger insiste, notamment lorsqu'il parle de l'Europe. Alors, il y a plusieurs manières d'entendre l'Europe. Il y a bien de l'Europe et pas forcément de l'Union européenne, c'est un autre sujet. Mais lui, il aborde, sous l'angle eschatologique, de la réconciliation des nations entre elles. Et cette réconciliation, elle a été faite par des personnes. Ce sont des amitiés entre les personnes, de Gaulle, Adenauer, Gasperi ou d'autres, ces amitiés personnelles qui ont permis d'opérer une réconciliation personnelle, puis une réconciliation des nations. Mais on est bien sur la personne humaine qui est le moteur premier de l'histoire. C'est la personne qui fait l'histoire. Ce ne sont pas les grandes structures, ce ne sont pas les grands systèmes. Et cette personne humaine qui est le moteur de l'histoire, eh bien, si elle est irriguée par le christianisme, elle va contribuer à édifier un monde chrétien. Et c'est pour ça qu'il insiste beaucoup sur cette notion de racine chrétienne de l'Europe, non pas comme quelque chose qui est passé, parce qu'après tout, un arbre qui est tronçonné, il est mort, mais il a toujours ses racines. Donc ces racines, elles n'ont de sens que si elles irriguent un arbre qui est toujours vivant. Donc parler des racines de l'Europe comme quelque chose de passé, qui nous aurait légué des beaux monuments, de belles églises, mais qui ne lègueraient plus rien, c'est se méprendre sur le sens même de ses racines. Elles sont là pour irriguer un arbre, pour irriguer une société. Et donc c'est aux chrétiens actuels de contribuer à vivifier l'arbre par le fait de se nourrir de ses racines. Et ses racines, c'est évidemment la théologie et la philosophie chrétienne, et ce sont les grands auteurs chrétiens. Alors voilà ce que nous dit Joseph Ratzinger. Il parle notamment de la variété des nations entre elles, qui sont unies au sein d'une alliance européenne, mais qui conservent leur variété et qui conservent leur culture propre. Donc l'alliance européenne n'efface pas la culture et n'efface pas la propriété de chacune des nations. et ces nations qui prennent les sources de la morale, ça sera mon dernier point, comme ça on pourra avoir quelques échanges, ces racines qui prennent les sources de la morale, enfin qui prennent la morale dans les sources chrétiennes. C'est pour ça qu'il allie le logos à l'éthos, à l'éthique. Soit l'éthique émane du Christ, pour dire les choses simplement, soit elle émane du Christ des 10 commandements, donc de Dieu et du droit naturel, soit elles émanent d'autres choses, mais là, ça aboutit évidemment aux drames humains qui ont été les drames du XXe siècle. Et c'est notamment ce qu'il nous dit là. Quand la raison se saisit des racines de la vie, étant toujours davantage à ne plus voir dans l'homme un don du Créateur, mais à en faire un produit. L'homme est fait, et ce qu'on peut faire, on peut aussi le détruire. La dignité humaine disparaît. Voilà. Si l'homme est un produit que l'on peut faire, eh bien on peut aussi le détruire, et donc cette destruction eh bien, fait disparaître la nature humaine elle-même. Ça, c'est le rôle de la foi, que de rappeler à la raison que l'être humain ne se déconstruit pas. Il prend Jacques Derrida, qui est le fondateur du wokisme, les Français, enfin, comme il y a quelques Belges dans la salle et quelques Chiliens, donc soyons quand même fiers d'être Français, parce qu'on a quand même, sommes à l'origine du wokisme et de toutes les idéologies qui ont causé des drames au XXe siècle, donc c'est quand même une grande fierté intellectuelle. Nous sommes quand même le pays qui a vaincu Pol Pot et Ho Chi Minh. Mais heureusement qu'il y a la raison et la foi pour purifier ça et pour contribuer à relier l'homme à des racines qui soient profondes. Donc c'est en cela qu'il faut évidemment entendre le rapport entre la raison et la foi et bannir la notion de subjectivité, ce qu'il dit à peu près à la fin du discours. Il parle du domaine de la subjectivité. Le domaine de la subjectivité qui ouvre les portes aux forces de destruction. Si on donne dans la subjectivité, donc il parle de la subjectivité, c'est cette dictature de relativisme qui effectivement aboutit à la destruction de l'homme. Au contraire, la raison, elle, a des forces créatrices, il y a des forces qui permettent le respect de la dignité humaine. Alors, brièvement en conclusion, comme ça on termine à peu près dans les temps, donc tout ira bien. Ce discours, je trouve, est très beau. D'abord, ce n'est pas le plus connu. Je ne sais pas si vous l'aviez connu avant ou si vous l'avez lu avant. Mais ce que je trouve extrêmement beau, d'abord de voir la concision du discours. Au cimetière, ça fait 2 pages. Et puis la conférence, ça fait 12 pages, mais imprimé de manière un peu large. Donc en fait, c'est un peu plus court. Donc on a une très grande concision et une très grande densité. C'est vraiment un genre de discours qu'il faut quand même lire plusieurs fois, qu'il faut ruminer. C'est comme dans Rabelais, enfin Pantagruel, il passe son temps à manger et à ruminer. Ça, c'est l'image du sage qui mange et qui rumine les livres. Et là, on est face à des discours, ceux-là, au Bernardin, à Londres ou à Westminster, qui sont des discours qu'il faut régulièrement ruminer et retravailler, parce qu'effectivement, ils ont une force de formation, une force de pensée qui est extrêmement forte. Et puis, on voit qu'il y a quand même des thèmes qui sont des thèmes structurants dans la vie de Joseph Ratzinger, notamment le rapport entre foi et raison, la corrélation qu'il y a entre les deux, l'importance de la vérité, une vérité ancrée dans le Christ, et puis surtout un très grand amour. C'est, je trouve, extrêmement touchant, notamment dans le discours au cimetière, quand il parle de ces jeunes Allemands, on voit une très grande sensibilité, avec beaucoup de pudeur et avec de la retenue, mais une très grande sensibilité à l'égard de ces jeunes hommes qui sont morts pendant cette guerre, une très grande pudeur et surtout une très grande espérance. Alors j'ai commencé par là, mais c'est quand même ce qui se dégage, je trouve, le plus de ces discours et même de la vie de Benoît XVI de manière générale. Pour quelqu'un qui a vu ses parents mourir assez jeunes, qui a connu la guerre, qui a vu aussi une église brinque-ballée, au cours de ces 9 décennies, il a toujours gardé une très, très profonde espérance et qui est là aussi une des trames de l'ensemble de ses discours. Une espérance qui, évidemment, est enracinée dans le Christ, et une espérance qui est fondée
sur le Christ.